Radio Canu, c'était Aïwa avec Arabica. Juste avant, on a entendu le chanteur de Massia Sound System, Papé J, avec Sucré Salé. Et encore avant, c'était Jawal avec Omri. Radio Canu, 102.2.
C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés. We'll be right back.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 10 janvier 2022 et on va commencer avec une rubrique internationale comme d'habitude en parlant de la situation au Kazakhstan et l'élection de Boric au Chili.
Puis après une petite pause musicale, on viendra au National vous parler des politiques sanitaires complètement chaotiques dans les établissements scolaires pour ensuite finir sur un retour des grèves en cours un peu partout en France.
Et après une autre petite pause musicale, on enchaînera donc avec un sujet au local sur la poursuite de la mobilisation nationale, mais donc au local des secteurs de la santé, du social et du médico-social. Et on vous parlera rapidement de la répression et d'une nouvelle attaque des FAF à la manifestation du 8 janvier à Lyon.
Et tout de suite, on commence avec les brèves.
À l'international. Au Soudan, la révolte populaire contre le coup d'état militaire du 25 octobre dernier tient toujours, mais la répression durcit. Le 2 janvier dernier, plusieurs milliers de Soudanais et de Soudanaises ont manifesté et au moins 46 morts sont à déplorer depuis cette date. Les militaires ont fermé l'accès dans certains quartiers de la capitale à Khartoum, empêchant les ambulances de prendre en charge des dizaines de blessés suite aux affrontements, aux lancers de gaz lacrymogènes. À cela s'ajoutent des coups et des tirs à balles réelles de la part des militaires sur les manifestants. Hamdok, le premier ministre représentant de la société civile dans le gouvernement militaire, vient d'annoncer en plus sa démission. En grève de la faim pendant plus de 4 mois pour protester contre l'emprisonnement arbitraire dont il est victime, le prisonnier palestinien Hicham Abu Hawash vient d'être libéré. Effective le 26 février, sa libération a été possible grâce à la mobilisation de solidarité à son égard et va mettre en lumière le recours massif de la part d'Israël aux détentions appelées administratives, c'est-à-dire sans procès, dont des centaines d'autres prisonniers palestiniens sont actuellement victimes. Aujourd'hui, Hicham Abu Hawash pèse à peine 39 kilos, souffre d'atrophie musculaire et est incapable de bouger ni de communiquer. Sa libération est le fruit d'une détermination à toute épreuve qui l'a poussé à continuer le combat au péril de sa vie.
Macron fait la une de la 6e édition d'un rapport sur l'islamophobie en Europe. C'est un rapport de 886 pages qui s'appelle « Rapport sur l'islamophobie en Europe 2020 », coédité par Enes Bayrakli, professeur de relations internationales à l'Université turco-allemande d'Istanbul, et Farid Hafez, politologue à l'Université de Georgetown. Le numéro de cette année réunit 37 universitaires, experts et militants de la société civile locaux, spécialisés dans le racisme et les droits de l'homme. Les auteurs considèrent que l'islamophobie en Europe s'est aggravée, voire a atteint un point de basculement. 2020 est notamment considéré comme une nouvelle ère d'institutionnalisation de l'islamophobie d'État. C'est pour ça qu'ils ont choisi l'image de notre président Emmanuel Macron comme couverture. Un homme politique qui, selon eux, représente cette institutionnalisation de l'islamophobie d'État, avec la politique qu'il a menée, notamment la fermeture du CCIF et la loi anti-séparatisme. En parallèle, le rapport rappelle aussi les chiffres des actes islamophobes en France. L'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie a répertorié en France 235 actes islamophobes en 2020, comparé à 154 pour l'année 2019, sachant que ces chiffres sont une sous-estimation, puisque, toujours selon le rapport, seuls 17% des actes anti-musulmans et islamophobes sont répertoriés.
Dans la catégorie « on remet ça », Moscou est en train d'amasser 100 000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine, dont le gouvernement cherche à s'appuyer sur l'OTAN face à Poutine. Les tensions se ravivent facilement depuis 2014 et le mouvement dit « Euromaïden », qui a fait tomber le gouvernement de Viktor Yanukovych, réputé pro-russe, est remplacé par des gouvernements pro-occidentaux. À la suite de ce mouvement, la Russie avait annexé la Crimée et a soutenu de façon plus ou moins ouverte les milices pro-russes dans le Donbass, parfois composées de militants d'extrême droite. À voir ce que va devenir la situation. Au national. Sache-le, toi qui doutes de l'efficacité du pass vaccinal et du tout numérique dans le contrôle de nos vies, eh bien Macron t'emmerde. Peut-être que toi aussi, mais là c'est pas pareil, c'est lui qui le dit. Adopté à l'Assemblée nationale dans la nuit du mercredi à jeudi, le pass vaccinal devrait, à l'issue de la navette parlementaire, incarner un pas de plus en avant dans la gestion autoritaire et sécuritaire du gouvernement. Illimitation dans le temps, renforcement des contrôles, multiplication des contrôleurs et judiciarisation accrue, le menu nous fait baver. Castex n'a peur de rien et surtout pas de cacher la vérité. Il expliquait ce jeudi sur BFM être opposé à la généralisation du port du masque FFP2, celui-ci étant, je cite, « réservé au personnel soignant et certains patients ». Bah oui, c'est plus pratique de faire appel aux soignants plutôt que d'assumer une possible pénurie. Blanquer à la Sorbonne, ça donne quoi ? Et bah tandis que la cinquième vague déferle dans les écoles, on en parlera plus tard, Blanquer participe lui, doctement, à un colloque réactionnaire sur le wokisme. Au programme, des questions pas très scientifiques, cancel culture, islamo-gauchisme et repli identitaire, miam miam. Nouveau mort sur le chantier du Grand Paris Express. Ce mercredi, un jeune travailleur est mort sur le chantier de la station Pleyel dans le cadre des travaux du Grand Paris Express. Alors que l'événement des Jeux Olympiques 2024 approche, les ouvriers de ces grands chantiers subissent des cadences infernales et la pression de l'État met en danger leur vie. On le rappelle, le travail tue.
En ce qui concerne les intermittents et intermittentes du spectacle, la mobilisation reprend à l'échelle nationale puisque l'année 2022 va être évidemment catastrophique pour le spectacle vivant et l'événementiel, tout comme l'était l'année 2021 et celle de 2020. Sauf que là, pour l'instant, aucune mesure n'a été prise par le ministère du Travail et par le ministère de la Culture. C'est l'hécatombe annoncée pour les intermittents du spectacle. Pour l'année 2022, si le gouvernement ne fait rien. C'est pour cette raison que, par exemple, ce vendredi dernier à Lyon, Roselyne Bachelot, enfin plus précisément à Villeurbanne, donc ministre de la Culture, est venue inaugurer la ville de Villeurbanne en tant que capitale de la culture 2022 et certains intermittents, intermittentes du spectacle, chômeuses, chômeurs sont venus perturber son discours avant de se faire expulser Manu Militari par la BAC et la police nationale de la foule en délire sur la place Lazare-Goujon à Villeurbanne. Ce n'est qu'un début.
Et on enchaîne.
Avant de passer du coup à l'international, on enchaîne avec une petite musique qui annonce la thématique du Kazakhstan avec la rappeuse Kana et son morceau « Tu t'appelles ».
Сюда, парень, напись удара, валит, да-да-да, я на троне. Троне. Каждый, кто меня тронет, троне. Точно будет наказан, страшно, так что будь наготове. Понял. Кто ты такой, а? Все твои выпады мимо. Ну да, я знала, но забыла твое имя. Мои люди не знают про вас ни капли инфы. Лишь только то, что культуру подняли, точно не вы. Так-так-так-так, посмотреть из вас тут каждый негр. Рэперы, всюду рэперы, но с приставкой не да.
Может, о тебе кто-то вспомнит, но не здесь, не сейчас. Если мы вместе на фото, то вот, тут ты один дома, никто не знает, кто ты такой.
Бедно мало тебе, видно, баловала мама, но и не навыдавала тумаков как надо. Видимо, тебе необходимо за гепард, дабы кем-то стать. Но и то не факт.
Ты хочешь славы, но не катит твой замут. Люди на тебя забьют, забудут, как тебя зовут. Ты хочешь денег, но не хватит вам валют.
Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут?
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi 10 janvier et on passe tout de suite à la rubrique
International.
Avec un premier sujet sur la situation au Kazakhstan.
Ouais, alors, que se passe-t-il exactement au Kazakhstan où en une semaine on est passé d'une situation qu'on pourrait qualifier d'émeutière, voire insurrectionnelle, à une situation qui s'apparente dorénavant à une quasi-guerre civile ? Et pourquoi les Occidentaux, les médias, le pouvoir s'y intéressent-ils tant ? Et, soit dit en passant, racontent pour beaucoup n'importe quoi ou ce qu'ils veulent bien laisser entendre. Alors, il y a une semaine donc, la contestation part de l'ouest du pays, dans une région riche, notamment en gaz et en pétrole, on va y revenir, dans ce pays lui-même riche, grâce à une économie qui repose essentiellement sur l'extraction d'hydrocarbures, mais où la population est pauvre, voire extrêmement pauvre. Tout part donc d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase, notamment l'augmentation exponentielle du prix du gaz suite à la fin des subventions d'État et du contrôle des prix décidé il y a quelques années entre plusieurs mesures néolibérales justifiées par des politiques d'austérité dictées en grande partie par le FMI, jusque-là un grand classique. Alors en deux jours, la contestation est devenue nationale, toutes les grandes villes sont touchées, avec comme épicentre de la contestation Almaty, la capitale économique du pays. En très peu de temps, de nombreux bâtiments officiels ont été incendiés ou envahis, notamment à Almaty, mais pas uniquement, où par exemple les manifestants se sont emparés de l'aéroport pendant plusieurs heures, ce qui n'est pas rien. Tokayev, le président dictateur du Kazakhstan depuis 2019, mais qui a eu des postes clés depuis 1999, entre autres Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, président du Sénat, donc ce président dictateur, a mis en place une double stratégie pour essayer de mater la contestation. D'abord, une répression brutale et ultra-violente, ça on va y revenir, et certaines concessions en ce qui concerne le prix du gaz, en suspendant notamment l'augmentation du prix du gaz et des contrôles des prix, mais il a également essayer de calmer la contestation en faisant démissionner l'ancien gouvernement, l'ensemble du gouvernement, ainsi que l'homme fort du pays, Nursultan Nazarbayev, qui, lui, a gouverné le pays des années 80 à 2019 et qui est toujours très influent et qui l'était en tant que chef du Conseil de sécurité. Et pour vous dire, la capitale politique de l'Azerbaïdjan, eh bien, c'est Nursultan, du prénom de cet homme fort. Bien, du coup, ce président Tokayev a pris de telles mesures, s'il a pris ces mesures, c'est qu'en quelques jours, la situation est devenue complètement incontrôlable pour lui, notamment par sa faute et par la nature autoritaire du pouvoir. Dès les premiers jours, les policiers ont tiré à balles réelles et des milliers de manifestants ont été arrêtés, tabassés, blessés. En riposte, ces manifestants ont capturé des soldats, des policiers, ont saisi des armes. De très nombreux bâtiments du pouvoir ont été pillés, incendiés. Le siège des médias a été pillé et incendié, des grandes surfaces pillées, etc. En une semaine, il y a eu 164 morts côté manifestants et pas moins de 8000 interpellations, alors que plus d'un millier de personnes étaient gravement blessées. En parallèle, 16 policiers ou militaires ont été tués et 1300, voire jusqu'à 1600, ce sont les derniers chiffres, blessés. Et pour finir, le pays a été plongé dans un blackout d'Internet par le gouvernement, bien sûr, par le pouvoir, et les communications téléphoniques coupées. Le pouvoir a fait appel à l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, composée de plusieurs ex-républiques soviétiques, et chapeautée par la Russie de Poutine, qui a immédiatement envoyé des troupes pour protéger les infrastructures d'extraction d'hydrocarbures, pendant que les mercenaires du tristement célèbre commando privé russe Wagner sont allés s'attaquer aux manifestants. En tout, il y aurait eu pas moins de 300 commandos Wagner envoyés dans tout le pays. Alors, pourquoi Poutine intervient ? Le Kazakhstan, c'est un cas d'école des pays dits en transition l'Union soviétique. Cette transition d'un capitalisme d'État vers un capitalisme sauvage a été assurée par un régime dictatorial directement issu de la bureaucratie stalinienne du PC soviétique. Ce régime dictatorial est profondément corrompu car il a beaucoup d'argent. Certaines familles se partagent le pouvoir et le bout de gras depuis le début des années 80 et de l'indépendance, dont la famille de Nazarbayev, avec notamment Nursultan, donc, qui a été Premier ministre à partir de 1984. C'est bien évidemment contre cette mainmise du pouvoir par d'anciens hauts cadres du PC, contre cette corruption à tous les échelons, contre l'extrême pauvreté du pays, de la population, que se dirige la haine populaire. C'est contre ce modèle capitaliste dépendant en grande partie et très majoritairement de l'exportation des hydrocarbures. Pour vous dire, le Kazakhstan, c'est le premier rang mondial des pays producteurs d'uranium. On le sait pas, mais c'est, on le sait assez peu, mais c'est le cas. Le 15e au niveau des réserves de gaz et le 13e au niveau de la production de pétrole. C'est bien pour cette raison que la Russie protège sans faille ce régime, au-delà même d'être un pays frontière de sa zone d'influence. Et c'est exactement pour cette même raison que les pays occidentaux ont tout intérêt à ce que l'insurrection soit matée. On y retrouve tous les grands noms des multinationales américaines, françaises ou britanniques. General Electric, Fluor, PepsiCo, Total Energy, Orano, Exareva, et même des Danone, des Lactalis, j'en passe. La France notamment est particulièrement dépendante du Kazakhstan en ce qui concerne le gaz et l'uranium, bien sûr. Et comme à leurs habitudes, les grandes démocraties occidentales ont tout intérêt à maintenir des régimes autoritaires pour garder la main mise sur les matières premières, tout comme la Russie, pas plus, pas moins. C'est le même impérialisme. C'est aussi ce qu'ont bien compris les manifestants et manifestantes qui bravent tous les jours le danger des tirs à balles réelles. Probablement. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ça ne colle plus, excusez-moi. Voilà. Des tirs à balles réelles. Du coup, voilà. Les grévistes et les manifestants demandent. Non, je me suis trompé. Je vais m'y retrouver. Voilà, c'est bien. Bon. Contrairement, pour finir, à ce qu'affirme le pouvoir, ce ne sont pas des terroristes, des casseurs, mais bien une partie du peuple qui n'en peut plus, qui a décidé pour certains de prendre les armes et de ne plus se laisser mourir de faim, ni tuer sans rien dire, alors que la manne issue des hydrocarbures est considérable. Une fois n'est pas coutume, on exprime ici toute notre solidarité avec le peuple kazakh en lutte contre ce pouvoir sanguinaire.
Et on enchaîne toujours à l'international avec un sujet sur le Chili.
Oui, au Chili, avec presque 56% des voix, le candidat de gauche Gabriel Boric a remporté l'élection présidentielle contre José Antonio Kast, candidat d'extrême droite et pinochiste convaincu. Dans l'immédiat, cette victoire a été vécue comme un soulagement par les composantes de gauche radicale et réformiste. Le pire, c'est-à-dire un retour à la dictature militaire telle qu'elle a pu exister entre 1973 et 1989, a été évité. Ouf! La victoire de Boric est le fruit d'une coalition entre Apruebo Dignidad, je soutiens la dignité, le Parti communiste et le Front Large, FA, avec certains écologistes régionalistes. Avec 1 million de votants en plus au second tour, cette victoire met un frein relatif à la dynamique d'abstention massive et à la suspicion généralisée d'une transition démocratique, surtout marquée depuis des dizaines d'années par un autoritarisme néolibéral. On se rappelle bien du Chili comme un laboratoire des politiques néolibérales mondiales. Il faut reconnaître que l'élection de Boric représente un tour de force dans le système électoral chilien. Dirigeant de la Fédération des étudiants de l'université en 2011, durant les grandes mobilisations de la jeunesse pour une éducation gratuite, publique et de qualité, il est ensuite élu député en 2013 en tant qu'indépendant et sans le soutien d'aucun parti, avant d'accéder donc aujourd'hui au poste de président, là encore sans le soutien des grands partis traditionnels. Mais une fois la joie de voir l'extrême droite écartée et défaite, il reste de nombreuses questions, mais aussi de nombreux défis. D'abord, Boric n'appartient pas à la gauche radicale. Sa ligne est celle d'un réformisme institutionnel qui va vite entrer en contradiction avec les aspirations populaires issues du mouvement de révolte de 2019. Certes, de grandes réformes sociales sont programmées sur l'éducation, la santé ou le système des retraites. Mais quel rôle va jouer Boric dans le processus constituant en cours qui doit liquider l'ancienne constitution de 1980 héritée de Pinochet? Quelle place va-t-il laisser aux mouvements sociaux, aux mouvements féministes, aux mouvements indigènes qui ont rythmé la contestation depuis 2019? Car à la suite du référendum d'octobre 2020 et de l'élection d'une convention constitutionnelle au suffrage universel en mai dernier, le Chili est sur le point de se doter d'une nouvelle constitution. Or, la rédaction de celle-ci est pilotée donc par une assemblée constituante où les partis traditionnels du centre-gauche et du centre-droit ont été mis en minorité au profit d'une gauche beaucoup plus radicale et surtout au profit d'indépendants issus des mouvements sociaux, on l'a dit, notamment féministes et des organisations des peuples autochtones. Or, on voit quand même difficilement comment ces deux dynamiques vont durablement cohabiter. D'un côté, Boric est déjà en train de faire des concessions à la bourgeoisie chilienne et au marché, en intégrant par exemple dans son gouvernement l'ancien directeur de la Banque centrale. Ou bien, par exemple, en revoyant à la baisse sa politique de fiscalisation du patronat. Et de l'autre, la colère et la révolte peuvent à nouveau éclater à tout moment. Et une politisation anticapitaliste est en train de s'ancrer de manière très très forte dans toute cette partie de la population révoltée depuis l'insurrection de 2019. Dans un pays donc où 1% des plus riches concentrent environ un tiers des revenus, où 30 ans de néolibéralisme sauvage ont aggravé la précarité et l'endettement des ménages, le programme de Boric ressemble pour l'instant beaucoup à celui d'un parti social-démocrate. Pas de nationalisation des grandes entreprises en vue, ni de coup d'arrêt à l'extractivisme prévu. On est loin d'un retour au socialisme de l'unité populaire qui a gouverné entre 1970 et 1973. D'ailleurs, une grande partie du mouvement social en est conscient et reste très méfiante, notamment à propos de la question Mapuche, vis-à-vis de laquelle le nouveau gouvernement ne s'est quasiment pas engagé. Certains points cristallisent d'ailleurs déjà un conflit à venir, comme celui de l'amnistie générale des prisonniers politiques enfermés au cours de cette séquence de révolte depuis 2019, amnistie que Boric refuse. Autre point de crispation, son adhésion initiale en faveur de la loi dite anti-barricade et anti-sabotage qui représente une étape de plus dans la répression des mouvements sociaux. Et puis, même si ce nouveau gouvernement promet des avancées sociales structurelles, il n'est pas seul à gouverner. Les mairies, les régions et le Congrès sont encore largement dominés par la droite traditionnelle. Sans doute que la victoire d'une gauche parlementaire progressiste ouvre la voie à l'approfondissement d'une forme de démocratie directe en cours, avec peut-être à la clé des victoires anticapitalistes et féministes et territoriales à venir. Mais nous ne sommes pas sûrs, nous regarderons avec intérêt l'évolution des alliances possibles et du rapport de force en cours.
Et tout de suite, on écoute donc une rappeuse, est-elle chilienne ?
Oui.
Donc Nina Tuch, A pie descalzo, le titre.
Cargo conmigo un flow nortino, llevo en la sangre mi campamento en alto. Cuántos recuerdos que guardo en el bolsillo que formaron testigo de donde vengo traigo. Estilo fresca nacida en el desierto, yo lo sé, represento lo que me enseñó en la calle. Desde pequeña manteniendo la fe, descubrí cómo ser libre sin tanto detalle. Me criaron el esfuerzo y el amor, emigrando con dolor, dejando todo al olvido. Potenciaron el talento y su valor, porque el sueño era mejor de lo que habían vivido. Apostaron todo nada y es que de la nada solo quedan ganas para no rendirse. Y llegó de regalo en forma de esperanza para cerrar todas esas cicatrices. Soy dinamita, es verdad, esto no es casualidad, que yo vengo a explotar mi habilidad. Auténtica en mi lírica, soy cultura y realidad, música que se nota en tiempo de rap. Respeto pa' todo lo que la mantiene en alto, sonando, la vamos ampliando. Hip hop desde los 90 sin stop, porque sigo formando cada uno de mis pasos. Forjando mi destino, mi ritmo suena asesino. En la calle el camino se aprende de esto. Lo que empezó en el barrio me salvó la vida y hoy en día la dicha siempre me llena de argumento. Desde la junta en Juan Martínez con Lemón, recuerdo a mis hermanos dejando en tarima el corazón. La I2Q siempre presente, un legado inteligente. Mi gente suena bien fuerte, alimento los sentidos, sigue intacta la pasión. El tiempo el condimento que me dará la razón. No busco ni de ti ni de nadie aprobación. Soy mi competencia, no hay explicación. Y no me vengan a decir que no es difícil, como el pan de cada día, aquí nada es easy. El tiempo no es gratis, yo nací versátil. El rap mi gran dosis de esta real crisis. Soy dinamita, es verdad, esto no es casualidad, que yo vengo a explotar mi habilidad. Auténtica en mi lírica, soy cultura y realidad, música que se nota en tiempo de rap. Respeto pa' todo lo que la mantiene en alto, sonando, la vamos ampliando. Hip hop desde los 90 sin stop, cada
Vous êtes toujours sur le Canu Info de Radio Canu. On est le 10 janvier et on continue cette fois-ci au
National. Et on commence tout de suite au national avec un point sur la politique sanitaire chaotique dans les établissements scolaires.
Et oui, ça fait longtemps que c'est la crise à l'école, mais là, c'est la véritable crise de nerfs. Le nouveau protocole sanitaire prévoit que les élèves sont désormais soumis à 3 tests en 4 jours s'il y a un cas positif dans la classe. Un antigénique ou un PCR le jour de l'annonce du cas Covid, avec une attestation à donner à l'école, puis des autotests à faire à la maison à J+2 et J+4. Et donc, tester ses enfants tous les 2 jours, venir les chercher en urgence à la sortie de l'école parce qu'un cas de Covid a été déclaré, faire la queue interminable à la pharmacie pour acheter un autotest sans être sûr d'en avoir, réorganiser les classes et les emplois du temps en fonction des classes fermées et des enseignants contaminés, et surtout faire face aux instructions de dernière minute du ministre Jean-Michel Blanquer et à ses rétropédalages incessants, c'est le nouveau quotidien à l'école pour les personnels et les élèves et les parents d'élèves. Bref, un début d'année 2022 bien foiré pour Jean-Michel. La faute à Omicron, ce nouveau variant très contagieux du Covid, puisque jeudi 6 janvier étaient répertoriées 28 structures scolaires et 9200 classes fermées, avec 47 000 cas confirmés déclarés d'élèves et 5600 cas confirmés déclarés de personnel sur les quatre derniers jours de cas de Covid. Donc la faute à Omicron, certes, mais surtout la faute à l'absence de moyens mis en place par le gouvernement dans une politique éducative et sanitaire digne de ce nom et à une politique de gestion de la pénurie confuse menée par Jean-Michel Blanquer. Pénurie de remplacement de personnel, absence de gestion des tests, absence de matériel de protection aussi pour les personnels et élèves et absence de dispositifs d'aération et de ventilation. Le gouvernement a même refait aux professeurs le coup du masque du début de l'épidémie, c'est-à-dire prétendre qu'il ne sert à rien de fournir des masques FFP2 aux profs, car il faut savoir s'en servir pour que ce soit efficace. Tiens, ça nous rappelle une époque où l'utilisation du masque n'était pas à la portée de tout le monde, et en fait c'était juste parce que l'État n'avait plus de stock de masques en réserve. Bref, les parents, les professeurs et les élèves n'en peuvent plus et une première journée de grève est prévue ce jeudi 13 janvier, appelée à la quasi-unanimité des associations de parents d'élèves et des syndicats d'enseignants. Le syndicat SNUIP-FSU a publié vendredi un long texte sur les injonctions contradictoires de dernière minute qui obligent à des ajustements permanents et épuisants. Le tout sous une pression sociale intense due à l'absence de règles permettant aux parents de garder leurs enfants à domicile sans perte de salaire. Et oui, parce qu'en fait c'est quand même ça le nœud du problème. Une politique de test tous les 2 jours dans les écoles, mais pas d'arrêt maladie garanti dans les entreprises ou en tout cas de système d'absence au travail pour les parents. Le billet du SNUIP-FSU est ponctué par cette remarque. Par ses propos et ses actes, Jean-Michel Blanquer a perdu toute légitimité comme ministre de l'Éducation nationale. Et les publications continuent puisque ce mardi, il y a eu une autre tribune dans le JDD qui s'intitule « 2700 acteurs de l'éducation et des médecins dénoncent le bilan de Macron et de Blanquer à l'école ». Il dénonce une gestion marquée par l'autoritarisme du ministre et le manque de volonté d'implication des personnels et des parents d'élèves dans justement la gestion de l'épidémie à l'école. Des investissements ont été refusés, y compris pendant la crise sanitaire. Après avoir économisé sur le budget de l'éducation nationale, 600 millions d'euros en 2020 et 75 millions en 2021, le gouvernement a récemment débloqué un tout petit 20 millions d'euros pour aider les collectivités locales à acheter des capteurs CO2 en limitant l'information aux recteurs par une circulaire. Alors qu'en Europe, la plupart des pays voisins ont davantage investi, rien que pour l'aération, 29 millions au Royaume-Uni, 60 millions en Irlande, 200 millions en Allemagne, et puis surtout pour les recrutements en Italie, plus de 1,6 milliard dès l'été 2020. Les demandes répétées donc de sécuriser les classes, les cantines, les salles de sport, qui sont les maillons faibles reconnus pour la contamination à l'école, n'ont jamais été entendues. Au contraire, malgré la dégradation de la situation sanitaire, le ministre a régulièrement allégé le protocole sanitaire, exposant sciemment les personnels, élèves et familles au virus. Retrait des masques dans certains départements, puisqu'il faut savoir les utiliser, n'est-ce pas ? Dégradation des conditions menant à la fermeture de classes, diminution des règles d'isolement. La Tribune accuse Jean-Michel Blanquer tout bonnement d'avoir mis à mal le système éducatif, d'une part en aggravant les inégalités sociales et d'autre part en dégradant les conditions d'apprentissage et de travail de millions d'élèves et de milliers de personnels, ainsi qu'en ne sécurisant pas sanitairement les écoles, en privilégiant une ouverture quoi qu'il en coûte pour éviter de mettre l'économie française en carafe. Et oui, car si l'école reste ouverte, les parents peuvent continuer à aller au travail. Et la Tribune se conclut par cette phrase « L'école Blanquer est celle de la reproduction sociale, d'une forme de complaisance avec le privé au détriment de l'école publique ». Cette exaspération va donc maintenant se traduire dans la rue avec une grève reconductible dans l'éducation nationale qui commence ce jeudi 13 janvier. Une manifestation est prévue à Lyon à 14h devant la DCEN du Rhône à l'angle de la rue Jaboulet et de la rue de Marseille.
C'est-à-dire le rectorat.
Oui, voilà, le rectorat plus simplement à Lyon 7e. Cette manifestation ira ensuite en direction de la préfecture et on espère que c'est le début d'une mobilisation déterminée pour un vrai changement de politique à l'école qui aille plus loin que la seule gestion de l'épidémie.
Et des grèves, il y en a dans l'éducation nationale, mais pas que.
Ouais, il y en a un peu partout en France depuis déjà plusieurs semaines. Hein. Vous en avez parlé avant les vacances de Noël. Il y avait Arkema, il y avait les cheminots, mais il y avait aussi Carrefour, Sanofi, Striker, et il y en a aujourd'hui dans beaucoup d'autres secteurs, car les travailleurs et les travailleuses en ont marre, alors que ce soit pour une hausse des salaires, puisque les salaires stagnent alors que les prix s'envolent, pour de meilleures conditions de travail, toujours plus détestables, contre des suppressions de postes, contre la politique sanitaire du gouvernement qui ne fait qu'en fonction des volontés du MEDEF, ou encore contre les effets de la crise économique qui permettent aux patrons de licencier à tour de bras. Les raisons sont vraiment très nombreuses, donc on va faire un petit tour d'horizon non exhaustif bien sûr des grèves du moment qui sont les plus costauds. Alors on commence par Toulouse, où il y a une méchante grève des éboueurs qui dure depuis déjà plus d'un mois, puisqu'ils ont commencé fin novembre. C'est un véritable bras de fer qui a été engagé contre Jean-Luc Moudenc, le maire et président Les Républicains de la mairie de Toulouse et de la métropole. Donc ce monsieur a mis en place une réforme qui vise à faire travailler l'ensemble des employés de la mairie et de la métropole, 35 heures semaine effective, mettant fin au entre guillemets fini parti qui permettent aux éboueurs de rentrer chez eux une fois la tâche accomplie et qui leur imposent là de rester au dépôt pour rien jusqu'à midi au mépris de leurs conditions de travail qui sont difficiles, qui sont souvent de nuit, en extérieur et dans des conditions dangereuses. Du coup, les grévistes demandent, en plus du retrait évidemment de cette mesure, des jours de congés supplémentaires, des hausses de salaire et la compensation des jours fériés le samedi, et ils ont bien raison. Le bras de fer est donc lancé, Moudenc ne veut rien lâcher, mais les éboueurs non plus. Alors ensuite, l'autre secteur, mais là à l'échelle nationale, qui est très très mobilisé, c'est notamment le secteur des soignants dans les services de réa et d'urgence, alors à Marseille, à Bordeaux, à Auch ou à Rouen, où des mouvements sont initiés depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. À Marseille, par exemple, un préavis de mobilisation et de grève illimitée a été lancé à l'hôpital Nord et à la Timone, et c'est également le cas à Rouen depuis plusieurs semaines, notamment réa au mépris du gouvernement qui a donc proposé cette prime mensuelle de 100 euros versée à partir de janvier. Cette prime non seulement est ridicule, mais face à la surcharge de travail des personnels, aux suppressions de lits, au manque de personnes, c'est une insulte. Ce sont des mouvements qui exigent des conditions de travail décentes pour les personnels, bien sûr, mais aussi des conditions d'accueil décentes pour les patients. C'est pas les premiers côté soignants et c'est pas les derniers, on espère. En tout cas, on les soutient vraiment parce que ce qu'ils sont en train de vivre une nouvelle fois, eh bien, c'est vraiment terrible. Autre grève, celle-ci, on qu'on soutient évidemment aussi très très fort et on espère qu'elle va aboutir. C'est dans l'Essonne, à Coudray-Monceau. Il y a 70 travailleurs sans papier qui font grève depuis 8 semaines, 2 mois donc, pour obtenir la fin de la sous-traitance et leur régularisation par le travail. Alors, il travaille pour DPD, qui est une filiale de La Poste. Et ouais, ça sert à ça de privatiser les services publics, ça permet d'avoir des filiales. Alors, en réaction, La Poste et DPD ont dit qu'ils ne connaissaient pas ces travailleurs, sauf que ces travailleurs sans papier, eh bien, ils sont 70, ils travaillent dans des conditions déplorables et ils ne se laissent pas faire. Ils ont décidé de mettre en place un piquet de grève permanent aux portes de l'entrepôt de livraison de colis. Ils s'organisent depuis 55 jours avec leur soutien pour assurer la logistique de leur présence sur le piquet de grève, mais aussi pour organiser une caisse de grève, pour tenir quoi. Leur détermination est sans faille. La Poste et DPD, qui n'avaient jusque-là pas levé le petit doigt et nié même l'existence de ces travailleurs sans papier, sont en train de changer de position, car figurez-vous, il y a eu un contrôle de l'inspection du travail sur le site de Coudray-Monceau. Ça a peut-être aidé un petit peu la direction à changer d'avis. Donc on espère évidemment qu'à Coudray-Monceau, les travailleurs vont être régularisés et que ça mettra fin à la sous-traitance. Et cette grève a donné des idées à d'autres, puisqu'une centaine de sans-papiers depuis les ont imités à Alfortville, et ils travaillent eux pour une autre filiale de La Poste, Chronopost. On n'en sait pas beaucoup plus encore sur cette grève, mais en tout cas ils partent également en illimité. En ce qui concerne le secteur privé, il y a également L2M à Trignac. Alors Trignac, évidemment, vous ne connaissez pas, c'est en Loire-Atlantique, qui sont en grève ce jour, depuis aujourd'hui, dans les 5 entreprises du groupe Exodon de la ville de Trignac, qui est spécialisée dans le transport et le levage, et qui, notamment, est en partie sous-traitée pour une raffinerie, celle de Donge. La direction a fait une petite surprise aux salariés, puisqu'elle a mis en vente l'entreprise dans le dos et sans en informer les salariés, qui l'ont appris donc récemment et qui craignent des suppressions de postes. Ils partent en grève illimitée. C'est pas la seule boîte en France où il y a des suppressions de postes, où il y a des grèves illimitées. Il y en a d'autres. On sait également qu'il y a une grève qui a débuté aujourd'hui sur des questions de conditions de travail, une fois n'est pas coutume, dans les RER parisiens, et notamment le RERC à Paris, qui a été très fortement en grève ce jour. Voilà, c'est une liste non exhaustive des grèves en cours, mais évidemment, on espère qu'elles vont être toutes victorieuses, qu'elles vont généraliser et qu'en 2022, il y en aura plein des grèves, quel que soit le résultat des élections présidentielles et législatives. Il va y en avoir besoin pour ne pas se laisser faire et gagner des nouveaux droits.
Et avant de passer au local, écoutons la Libanaise Mao Lati avec son morceau Mabadna Netgarab.
صايد متلون لون بدي خلي ارض بلادي احلى ارض فيها الكون لو بلادي احلى من ذهب الحبة منه 100 مليون انا بفتخر بالارض يلي هي رمز بلادي هالفخرة ورثة من بي ان شاء الله بوريتها لولادي هويتي لبنانية بحفظ حق الجد الجد بحياتي لبنان بديها ورح ضل يقول ونادي يا لبنان ما تعزك عنه فكر بحياتك قدامك بحياتك ما تفكر انه المستقبل برات لبنان لبنانك ما تتخلى عنه بعدين الشمس بعلى دي اثرها هي الروعة وعنا مغطى جعيتها من عجائب الكون السبعة ما احلى من حلو تلبس ما في ازمة من القلعة صيدا وسور جميع كار دوشة بيروت مجتمعة يا لبنان من زمان كل بدنا نتغرب ما بدنا نتشرد لبنان رح نبقى من بعضنا نتقرب
ما بدنا نتغرب ما بدنا نتشرد بلدنا رح نبقى بعضنا نتقرب ما بدنا نتغرب ما بدنا نتشرد بلدنا رح نبقى بعضنا نتقرب
C'était bien la fin du morceau. Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 10 janvier. Vous venez d'écouter une rappeuse libanaise qui s'appelle Maoulati. Et le nom de sa chanson, c'était Ma Badna Negarab. Pardon, c'était nul. C'était nul.
Et maintenant, pour finir l'émission, on arrive à...
Local. Local. Local.
Local.
Et on commence tout de suite avec un sujet sur la poursuite de la mobilisation des secteurs de la santé, du social et du médico-social.
Oui, un sujet local qui est un peu de la triche parce que c'est aussi un sujet national. Mais quand même, plus de 3000 personnes étaient mobilisées à Lyon pour la première journée de grève des secteurs de la santé, du social et du médico-social le 7 décembre dernier. En France, il y avait eu une centaine de rassemblements et de manifestations avec plus de 50 000 manifestants. Forte de cette journée d'action nationale d'ampleur, une délégation avait été reçue au ministère, mais sans trop de résultats. Donc la mobilisation continue avec une nouvelle journée de grève demain pour l'emploi, les salaires, de meilleures conditions de travail et l'amélioration du système de santé et d'action sociale. Ces journées de mobilisation sont nées évidemment du constat qu'avec la crise sanitaire, le système de santé et d'action sociale est exsangue et qu'il n'y a pas assez de place ni de moyens dans la santé et le social. Et la CGT Santé et Action Sociale dénonce que des millions d'économies sont encore prévues sur l'hôpital en 2022, notamment avec la future loi de financement de la Sécurité sociale 2022, qui aura pour conséquence encore des fermetures de lits et des suppressions de postes qui continueront, alors que nous sommes a priori toujours en pleine pandémie. Ces mobilisations font aussi suite à l'annonce au plan Ségur qui avait été présenté par le gouvernement comme... une superbe augmentation de 183 euros pour les salariés de la santé et qui, en fait, ne touchait que certains salariés du privé et du public et pas du tout, par exemple, tous les personnels du secteur médico-social. L'ensemble des secteurs de la santé, du social et du médico-social continue donc à revendiquer l'ouverture de places et l'ouverture de lits, l'arrêt des restructurations de suppression de places et de fermeture de lits, la création de 400 000 embauches sur des statuts pérennes et des contrats en CDI, 100 000 pour le social et le médico-social, 100 000 pour la santé et 200 000 pour les EHPAD, un plan de formation qualifiante et ambitieux loin des promesses du Ségur et une amélioration des conditions de travail, d'accueil et de la qualité de la prise en charge des personnes accueillies avec une revalorisation salariale de moins de 300 euros et la transposition des 183 euros du Ségur pour toutes et tous, privés et publics. Ils exigent aussi une convention collective unique de haut niveau qui va dans le sens d'une amélioration nette des salaires et des avantages conquis, puisque ce qui se profile derrière, c'est aussi le début d'une négociation des deux principaux syndicats patronaux des secteurs sociaux pour la fusion des deux conventions collectives historiques du secteur social, dont la convention 51 et la convention 66, dont la fusion va être entamée cette année 2022. Ces syndicats patronaux se donnent 5 ans maximum pour réaliser cette fusion. Et pour l'instant, ce projet de fusion va plutôt dans le sens d'une convention unique au rabais, ce que dénoncent bien entendu les salariés du secteur social. Dans les revendications, il y a aussi bien sûr l'arrêt de la casse du service public et de la fonction publique en général et la volonté d'un grand service public d'action sociale et de santé. Et pour tout ça, les salariés de ces domaines, de ces secteurs et ceux et celles qui les soutiennent, se retrouvent demain dans la rue avec un premier rassemblement à Villefranche sur le parvis de l'hôpital Lyon-Ouest de 11h à 15h, puis une assemblée générale à la Bourse du Travail de Lyon à 10h du matin et à 14h, place Jean Massé, une manifestation qui ira jusqu'à la préfecture.
Et on, avant de finir l'émission, on va revenir sur une manifestation qui a un peu choqué à Lyon.
Ouais, alors c'est celle de ce samedi 8 janvier, puisque il y avait à Lyon, il y a toujours à Lyon, des manifestations contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire. Alors à Lyon, il y a toujours deux manifestations différentes. Hein. Ce samedi, il y avait la manifestation qui partait de Bellecour, qui est plutôt droite, extrême droite, conspi. Là, on vous déconseille d'y aller à celle-là. Et puis il y a l'autre donc qui partait de la place Sato, qui est plus à gauche. Celle-là, on vous conseille un peu plus d'y aller. Quoique, puisque les deux événements à retenir, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais par contre, les CRS et les forces de l'ordre, eux, étaient bien présents. Et donc, il y a une scène qui tourne un peu sur Internet, voire pas mal, où on voit des CRS qui tirent des grenades lacrymogènes, comme ils ont l'habitude de le faire à Lyon, c'est quasi systématique, pour réprimer les manifestants. Là, en l'occurrence, ils se trouvent près de la place de la Comédie, dans le premier arrondissement de Lyon. Sauf qu'un tir de grenade touche un appartement du troisième étage d'un des immeubles de la rue, qui est occupé par une mère et ses enfants. Ça casse la fenêtre, hein, et les lacrymos éclatent dans l'appartement. Alors, ces images qui sont assez impressionnantes, puisqu'on voit bien la fumée des lacrymos sortir de l'appartement, ça nous rappelle tristement le décès de Zineb Redouane à Marseille, hein, qui, on le rappelle, est décédé dans son appartement. C'était une octogénaire le 1er décembre 2018, donc pendant les Gilets jaunes, qui avait reçu une grenade en pleine tête alors qu'elle était à sa fenêtre et était morte peu après. Ça prouve une fois de plus que les flics, les CRS tirent absolument n'importe comment et qu'ils ne visent pas, ou alors ils visent très mal, donc ils sont mal formés. Quoi qu'il arrive, ça revient au même. Et ce qui est encore plus grave dans cette vidéo, c'est que les CRS se sont empressés de faire ouvrir les portes de l'immeuble pour rentrer dans l'appartement. Alors on se dit, c'est probablement pour porter secours, mais non, c'est pas ce que montrent les images. Les images montrent que les CRS rentrent dans l'appartement pour retrouver les morceaux, les débris de grenades lacrymo et les envoyer par la fenêtre à ses collègues pour qu'il n'y ait plus de traces. Cette vidéo est vraiment assez accablante. Heureusement que des gens ont filmé, une fois de plus. Ça prouve que filmer les flics dans leurs actions et dans leurs exactions, eh bien, parfois, c'est fort utile. Et l'autre point négatif de cette manifestation, une fois n'est pas coutume, ça s'est passé à la fin de la manifestation. Des fachos sont intervenus, a priori c'était plusieurs dizaines, alors certains disent 30, 40, 50, allez, allons sur une quarantaine, et que évidemment l'objectif était de tabasser des manifestants. Ils ont chopé un certain nombre de jeunes notamment, et ils les ont tabassés, mis au sol, tout ça sous les yeux de la police, qui une fois de plus a été complaisante, les a laissés tabasser en toute impunité et repartir groupés comme ils sont arrivés jusqu'à leurs locaux situés, on le rappelle, dans le Vieux-Lyon. Voilà pour ce résumé un peu triste de cette répression à la fois menée par les flics et par les FAF de la manifestation de ce samedi à Lyon. Et on finit donc avec notre traditionnel
Agenda. Donc à l'agenda, on rappelle déjà les deux rendez-vous dont on a déjà parlé au cours des actus, c'est-à-dire demain la manifestation, qui part à 14h devant le rectorat, angle rue Jaboulet. Non, pas du tout. Je confonds totalement.
Ouais.
Demain.
C'est pas grave.
L'Assemblée Générale à 10h à la Bourse du Travail de Lyon, des secteurs du social, du médico-social et de la santé. Puis le rassemblement à Villefranche sur le parvis de l'hôpital Lyon-Ouest de 11h à 15h. Avec enfin la manifestation à 14h qui part de Jean Massé jusqu'à la préfecture. Et jeudi 13 janvier, c'est cette fois l'éducation qui est en manifestation à 14h devant le rectorat du Rhône. Angle rue Jaboulet et rue de Marseille à Lyon 7e. Et ça partira en direction de la préfecture. Et puis, toujours à l'agenda, il y aura une soirée projection débat l'émancipation des femmes et des minorités de genre dans les luttes révolutionnaires à 18h30, vendredi 14 janvier, au Café Rosa à Lyon. Et lundi prochain, il y a un rassemblement en soutien à un camarade licencié pour avoir critiqué la politique salariale d'Amazon, un camarade de Sud Commerce et Service Aura. Le rassemblement a lieu devant le Conseil des Prud'hommes où a lieu son audience. Donc c'est le lundi 17 janvier de 13h à 15h.
Et puis si vous ne le savez pas encore, mais on en reparlera, le 27 janvier, vous faites grève puisque c'est une grève interprofessionnelle et que ça permettra peut-être de visibiliser un peu toutes les grèves qu'il y a à l'échelle nationale, même si bien sûr c'est comme toujours largement insuffisant hein, de la part de l'intersyndicale d'appeler à ces grèves ponctuelles, mais on appelle quand même à rejoindre cette journée de mobilisation le 27, on aura l'occasion d'en reparler. Et sur ce, bien, on vous dit quand même...
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et bonne semaine de lutte, surtout.
Ça vieillit et plus bas ça glisse un bon matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Cher à prison, d'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe. Cher à scalpel, patron, va d'héliogabale, d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil, pour que chaque chien sur votre rogne pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes. Cher à Macar.
عندها تاريخ الله يرحم الشعراء اللي كانوا معايا في بن حنيفية دبري 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 يا دبري 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 أقولش لك الضبيري الحبيبك هي يا وين ترقي بيه يا دبري 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 الو 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 خبر يخبر ما صرا دبري 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 الو 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 يا وعلى غفلة يا وجات الحملة ديتنا دبري 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 الو 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 دبري 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 ليتين في بن حنيفية مقصرين الو 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 اهم 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 يا دبري على حبيبك يا وين ترقديه